Chapitre 4. Avec le profond et inconscient soupir que même la proximité du télécran ne pouvait l'empêcher d'exprimer, lorsque sa journée de travail commençait, Winston attrapa le phonoscript, souffla sur la poussière du micro et mit ses lunettes. Puis il déroula et agrafa ensemble quatre petits cylindres de papier qui étaient déjà sortis du tube pneumatique à la droite de son bureau. Sur les murs de la cabine, il y avait trois orifices. À droite du phonoscript, un petit tube pneumatique pour les messages écrits, à gauche, un plus grand pour les journaux, et dans le mur de côté, à portée de main de Winston, une grande fente oblongue protégée par un grillage. Cette dernière était destinée à l'élimination des vieux papiers. Des fentes similaires existaient par milliers ou dizaines de milliers dans tout le bâtiment, non seulement dans chaque pièce, mais aussi à de courts intervalles dans chaque couloir. C'est pour cette raison qu'on les a surnommés les trous de mémoire. Lorsqu'on savait que certains documents devaient être détruits, ou quand on voyait un bout de vieux papier traîner, c'était un réflexe de soulever le volet du trou de mémoire le plus proche et de l'y déposer, après quoi il serait emporté par un courant d'air chaud vers les énormes fours qui étaient cachés quelque part dans les recoins de l'immeuble. Winston examina les quatre bouts de papier qu'il avait déroulés. Chacun d'entre eux contenait un message d'une ou deux lignes seulement, dans le jargon abrégé, pas vraiment novlangue, mais composé en grande partie de mots novlangues, qui a été utilisé dans le ministère à des fins internes. On pouvait y lire Times, 17-3-84, discours mal rapporté, l'Afrique, rectifié. Times, 19-12-83, prévision 3, app 4e trimestre, 83 erreurs d'impression vérifiées, numéro actuel. Times, 14-2-84, mini-plein, chocolat mal coté rectifié. Times, 3-12-83, report BB ajourné, double ingrat ref, 1 personne réécrire, intégralement UPSUB anti-dépôt. Avec un léger sentiment de satisfaction, Winston a posé le quatrième message à part. C'était un travail complexe et à responsabilité, et il valait mieux qu'il soit traité en dernier. Les trois autres étaient des questions de routine, sauf le deuxième qui impliquait probablement un travail fastidieux empêtré dans des listes de chiffres. Winston composa « Ancien numéro » sur le télécran et demanda les numéros référencés du Times qui arrivèrent par le tube pneumatique au bout de quelques minutes seulement. Les messages qu'il avait reçus se rapportaient à des articles ou de nouveaux éléments que, pour une raison ou une autre, il a été jugé nécessaire de modifier ou, comme le veut la formule officielle, de rectifier. Par exemple, il a été publié dans le Times du 17e jour de mars que Big Brother, dans son discours de la veille, avait prédit que le front du sud de l'Inde resterait calme mais qu'une offensive eurasienne serait bientôt lancée en Afrique du Nord. Il se trouve que le haut commandement eurasien a lancé son offensive dans le sud de l'Inde et a laissé l'Afrique du Nord tranquille. Il est donc nécessaire de réécrire le paragraphe sur le discours de Big Brother, de sorte qu'il ait prédit ce qui s'est réellement passé. Ou encore, le Times du 19 décembre avait publié les prévisions officielles de la production de différentes sortes de biens de consommation au quatrième trimestre de 1983, qui était également le sixième trimestre de la neuvième période du plan triennal. Le numéro d'aujourd'hui contenait un relevé de la production réelle, d'où il ressort que les anciennes prévisions étaient gravement erronées. Le travail de Winston consistait à rectifier les chiffres originaux en les faisant concorder avec les suivants. Quant au troisième message, il faisait référence à une erreur très simple qui pourrait être réglée en quelques minutes. Pas plus tard qu'en février dernier, le ministère de l'Abondance avait publié une promesse, un engagement catégorique était les mots officiels, qu'il n'y aurait pas de réduction de rationnement de chocolat durant l'année 1984. En fait, comme Winston le savait, La ration de chocolat devait être ramenée de 30 à 20 grammes à la fin de la semaine en cours. Il suffisait de remplacer la promesse initiale par un avertissement selon lequel il serait probablement nécessaire de réduire la ration à un moment donné en avril. Dès que Winston aura traité chacun de ces messages, il agrafera ces corrections retranscrites par le phonoscript au Times et les enverra par le tube pneumatique. Puis, d'un geste le plus machinal possible, il chiffonna le message original et les notes qu'il avait lui-même prises et les déposa dans le trou de mémoire pour être dévoré par les flammes. Ce qui se passait dans le labyrinthe invisible auquel les tubes pneumatiques conduisaient, il ne le savait pas en détail. Mais il en connaissait les grandes lignes. Lorsque les corrections étaient apportées dans les numéros du Times qu'il nécessitait, le journal était réimprimé, l'original détruit et la version corrigée était rangée à sa place. Ce processus d'altération continue a été appliqué non seulement aux journaux, mais aux livres, périodiques, brochures, affiches, dépliants, films, des bandes sonores, des dessins animés, des photographies, tout type de littérature ou de documentation qui pourrait contenir toute signification politique ou idéologique. Jour après jour, et presque minute par minute, le passé a été mis à jour. De cette façon, il existait une preuve irréfutable, document à l'appui, que chaque prédiction faite par le parti était exacte. Aucune information, aucune opinion qui pouvait contredire les besoins du moment n'était autorisée à rester enregistrée. L'histoire tout entière est un palimpseste, effacé proprement et réécrit minutieusement aussi souvent que nécessaire. Il n'existait plus aucun risque, une fois l'acte accompli, de prouver la falsification. La plus grande section du service des archives, bien plus importante que celle sur laquelle travaillait Winston, se composait simplement de personnes dont le devoir était de retrouver et de rassembler tous les exemplaires des livres, journaux et autres documents qui avaient été remplacés et devaient être détruits. Un numéro du Times qui, en raison de changements de lignes politiques ou de prophéties erronées émises par Big Brother, pouvait être réécrit une douzaine de fois tout en gardant les mêmes références ainsi que sa date d'origine, et aucune autre copie n'existait pour le contredire. Les livres, eux aussi, ont été rappelés et réécrits à maintes reprises et ont été invariablement réédités sans qu'il soit admis que toute modification avait été apportée. Même les instructions écrites que Winston recevait et qu'il jetait invariablement dès qu'il en avait fini n'indiquaient qu'un acte de contrefaçon devait être commis. Il s'agissait toujours de bordereaux, d'erreurs, de fautes d'impression ou de citations erronées qu'il était nécessaire de rectifier par souci d'exactitude. Mais en fait, il pensait qu'en réajustant les chiffres du ministère de l'Abondance, ce n'était même pas de la contrefaçon. Il s'agissait simplement de remplacer une absurdité par une autre. La plupart des contenus dont vous vous occupiez n'avaient aucun lien avec quoi que ce soit dans le monde réel, même pas le genre de connexion qui est contenu dans un mensonge direct. Les statistiques étaient tout autant une fantaisie dans leur version originale que dans leur version rectifiée. La plupart du temps, on s'attendait à ce que vous les oubliez. Par exemple, les prévisions du ministère de l'Abondance avaient estimé la production de bottes pour le trimestre à 145 millions de paires. La production réelle a été finalement de 62 millions. Winston, cependant, en réécrivant la prévision, a ramené le chiffre à 57 millions afin de pouvoir affirmer que, comme d'habitude, le quota avait été dépassé. Dans tous les cas, 62 millions n'étaient pas plus proches de la vérité que 57 millions par rapport aux 145 millions annoncés. Il est très probable qu'aucune botte n'ait été produite. Encore plus vraisemblable, personne ne savait combien on en produisait, et encore moins nombreux étaient ceux qui s'en souciaient. Tout ce que l'on savait, c'est que chaque trimestre, un nombre astronomique de bottes ont été produites sur le papier, alors que peut-être la moitié de la population de l'Océanie avait pieds nus. Et c'est ainsi avec tout ce qui est enregistré, important ou non. Tout s'est effacé dans un monde d'ombre dans lequel finalement même la date de l'année était devenue incertaine. Winston jeta un coup d'œil de l'autre côté de la galerie. Dans une cabine identique, juste de l'autre côté, un petit homme précieux et au menton sombre nommé Tillotson travaillait sans relâche, avec un journal plié sur les genoux et les lèvres collées à l'embout du phonoscript. Il semblait vouloir cacher ce qu'il disait au télécran. Il leva les yeux, et ses lunettes lancèrent un éclair hostile dans la direction de Winston. Winston connaissait à peine Tillotson et n'avait aucune idée de la nature de son travail. Le personnel du service des archives ne parlait pas volontiers de son travail. Dans le long hall sans fenêtre avec sa double rangée de cabines et son bruissement sans fin de papier et de voix qui murmurent dans les phonoscripts, il y avait une douzaine de personnes que Winston ne connaissait même pas de nom, bien qu'il les ait vues tous les jours se pressant dans les couloirs ou gesticulant durant les 2 minutes de la haine. Il savait que dans le box à côté de lui, la petite femme aux cheveux de sable qui travaille jour après jour simplement pour retrouver et supprimer de la presse les noms de personnes qui avaient été vaporisées et étaient donc considérées comme n'ayant jamais existé. Il y avait une certaine cohérence en cela, puisque son propre mari avait été vaporisé 2 années auparavant. À quelques cabines de là, une discrète, oisive, chimérique créature nommée Ampleforth, avec des oreilles très poilues et un talent surprenant pour jongler avec les rimes et les mètres, s'employait à produire des versions déformées, des textes définitifs. On les appelait des poèmes qui étaient devenus idéologiquement offensants, mais qui, pour une raison ou une autre, devaient être conservés dans les anthologies. Et ce hall, avec ses plus ou moins 50 employés, n'était qu'une sous-section, une cellule unique, pour ainsi dire, dans l'énorme complexité du service des archives. Plus loin au-dessus, en dessous, il y avait d'autres essaims de travailleurs engagés dans une multitude d'emplois inimaginables. Il y avait d'énormes imprimeries, avec leurs sous-éditeurs, leurs experts en typographie et leur équipement élaboré de studio pour le trucage photographique. Il y avait la section des programmes télé avec ses ingénieurs, ses producteurs et ses troupes d'acteurs spécialement choisis pour leur habileté à imiter les voix. Il y avait les armées d'archivistes dont le travail consistait simplement à dresser des listes de livres et de périodiques qui devaient être retirés. Il y avait de vastes dépôts où les documents corrigés étaient stockés et les fours cachés où les versions originales étaient détruites. Et quelque part, dans l'anonymat, il y avait les cerveaux directeurs qui coordonnaient l'ensemble de l'effort et indiquait les orientations politiques pour savoir quel fragment du passé devait être conservé ou bien falsifié et quel autre devait être détruit. Et le service des archives, après tout, n'était lui-même qu'une seule branche du ministère de la vérité, dont la mission principale n'était pas de reconstruire le passé, mais de fournir aux citoyens de l'Océanie des journaux, des films, des manuels scolaires, des programmes, pièces de théâtre, romans, tout type d'information, d'instruction ou de divertissement, d'une statue à un slogan, d'un poème lyrique à un traité biologique et d'un manuel d'orthographe pour enfants à un dictionnaire de 9 langues. Et le ministère ne devait pas seulement répondre aux multiples besoins du parti, mais aussi de répéter l'ensemble de l'opération à un niveau inférieur pour s'adresser au prolétariat. Il y avait toute une chaîne de départements distincts s'occupant de la littérature prolétarienne, de la musique, du théâtre et du divertissement en général. Ici ont été produits des journaux de mauvais goût, ne contenant presque rien d'autre que du sport, du crime et de l'astrologie, du sensationnel, des romans bon marché, des films imprégnés de sexe et des chansons sentimentales entièrement composées par une machine, une sorte de kaléidoscope appelé versificateur. Il y avait même toute une sous-section appelée en 9 langues pornosexe, chargée dans la production pornographique bas de gamme, qui était envoyée dans des paquets scellés et qu'aucun membre du parti, autre que ceux qui ont travaillé sur elle, était autorisé à regarder. 3 messages étaient sortis du tube pneumatique pendant que Winston travaillait. Mais c'était des choses simples. Et il s'en était débarrassé avant que les 2 minutes de la haine ne l'interrompent. Une fois la haine terminée, il retourna à son bureau, prit le dictionnaire de 9 langues sur l'étagère, poussa le phonoscript sur le côté nettoya ses lunettes et s'attela à son travail principal du matin. Le plus grand plaisir de Winston dans la vie était son travail. La plupart du temps, c'était fastidieux, mais parfois il s'employait à des tâches difficiles et complexes qui pouvaient vous perdre comme dans les profondeurs d'un problème mathématique. De délicates contrefaçons pour lesquelles vous n'aviez comme seul guide que votre connaissance des principes de Langsok et une estimation personnelle de ce que le parti attendait de vous. Winston était doué pour ce genre de choses. À l'occasion, il avait même été chargé de rectifier les principaux articles du Times qui ont été entièrement rédigés en novlangue. Il lut le message qu'il avait mis de côté auparavant. Times, 3-12-83, report, ordre jour, bébé, plus non satisfait, ref, non-être, réécrire, entier, sum-o, avant classement. En ancien langage ou en anglais standard, cela peut être traduit par « compte-rendu de l'ordre du jour de Big Brother dans le journal du Times du 3 décembre 1983 est extrêmement insatisfaisant et fait référence à des personnes inexistantes. Réécrivez le texte dans son intégralité et soumettez votre projet à une autorité supérieure avant de le déposer. » Winston a lu l'article incriminé. L'ordre du jour de Big Brother semblait avoir été principalement consacré à faire l'éloge du travail d'une organisation connue sous le nom de FFCC, qui fournissait des cigarettes et d'autres articles de confort aux marins dans les forteresses flottantes. Un certain camarade Withers, un membre éminent du parti intérieur, avait été distingué pour une mention spéciale et reçu une décoration. L'ordre de mérite manifeste, deuxième classe. 3 mois plus tard, la FFCC a été soudainement dissoute sans aucune raison. On pourrait supposer que Withers et ses associés étaient maintenant en disgrâce, mais il n'y avait pas eu de rapport de l'affaire dans la presse ou sur le télécran. C'était à prévoir car il était inhabituel que des délinquants politiques soient jugés ou même dénoncés publiquement. Les grandes purges impliquant des milliers de personnes avec des procès publics où les traîtres et les criminels de la pensée faisant des aveux de leurs crimes abjects pour être ensuite exécutés, étaient des spectacles exceptionnels qui ne se produisaient pas plus d'une fois tous les 2 ans. Le plus souvent, les personnes qui avaient subi la désapprobation du parti disparaissaient tout simplement, et on n'entendait plus jamais parler d'eux. On n'avait pas la moindre idée de ce qui leur était arrivé. Dans certains cas, il se peut même qu'il ne soit pas mort. Winston connaissait peut-être personnellement 30 personnes, sans compter ses parents, qui avaient disparu à un moment donné ou un autre. Winston se gratta doucement le nez avec un trombone. Dans la cabine d'en face, le camarade Tillotson était encore replié secrètement au-dessus de son phonoscript. Il leva la tête un instant. Il lança à nouveau un éclair hostile des lunettes. Winston se demandait si le camarade Tillotson était engagé dans le même travail que lui. C'était parfaitement possible. Un travail si délicat ne serait jamais confié à une seule personne. D'autre part, le confier à un comité serait admettre ouvertement qu'un acte de falsification avait lieu. Très probablement qu'une douzaine de personnes travaillent quelque part sur des versions alternatives de ce que Big Brother avait réellement dit. Et qu'un décideur au sein du parti intérieur sélectionnerait cette version ou une autre, la rééditerait et mettrait en marche les processus complexes de recoupement, un mensonge serait alors choisi et serait définitivement classé dans les archives pour devenir la vérité. Winston ne savait pas pourquoi Withers avait été disgracié. Peut-être était-ce pour cause de corruption ou d'incompétence ? Peut-être que Big Brother ne faisait que se débarrasser d'un subordonné trop populaire. Peut-être que Withers ou un de ses proches avait été soupçonné de tendance hérétique. Ou peut-être, ce qui était le plus probable, la chose s'était simplement produite parce que les purges et les vaporisations étaient une partie nécessaire dans la mécanique du gouvernement. Le seul véritable indice réside dans les mots « ref non-être ». Qui indiquait que Withers était déjà mort. On ne peut pas invariablement déduire que c'est le cas chaque fois que des personnes ont été arrêtées. Parfois ils étaient libérés et autorisés à rester en liberté un an ou deux ans avant d'être exécutés. Très rarement, certaines personnes que vous croyiez mortes depuis longtemps faisaient une réapparition fantomatique lors d'un procès public, où son témoignage impliquait des centaines d'autres personnes, puis il disparaissait cette fois-ci pour toujours. Withers, cependant, était déjà non-être. Il n'existait pas. Il n'avait jamais existé. Winston décida qu'il ne serait pas suffisant de contredire le discours de Big Brother. Il était préférable de traiter tout autre chose, sans aucun rapport avec le sujet d'origine. Il pourrait transformer le discours en une dénonciation habituelle des traîtres et des criminels de la pensée, mais c'était un peu trop grossier comme ficelle. Inventer une victoire au front ou un quelconque triomphe de surproduction dans le cadre du 9e plan triennal compliquerait trop le travail des archives. Ce qu'il fallait, c'était inventer un sujet de toute pièce. Soudain, son esprit s'est mis en marche. Il eut l'image d'un certain camarade Ogilvy, récemment mort au combat, dans des circonstances héroïques. En certaines occasions, Big Brother consacrait son ordre du jour à la commémoration de quelques humbles membres du parti dont la vie et la mort devenaient un exemple digne d'être suivi. Aujourd'hui, il devrait commémorer le camarade Ogilvy. Il est vrai que le camarade Ogilvy n'existait pas, mais quelques lignes dans un article et quelques photos truquées le feront bientôt naître. Winston réfléchit un instant, se saisit du phonoscript et commença à dicter dans le plus pur style de Big Brother, un style à la fois militaire et pédant grâce à une astuce qui consiste à poser une série de questions et ensuite d'y répondre rapidement. « Quelle leçon tirons-nous de ce fait, camarade ?» La leçon, qui est aussi l'un des principes fondamentaux de l'Anxoc, que, etc., etc. Facile à imiter. À l'âge de 3 ans, le camarade Ogilvy avait refusé tous les jouets sauf un tambour, une mitraillette et un modèle réduit d'hélicoptère. À 6 ans, par un assouplissement spécial des règles, il avait rejoint les espions. À 9 ans, il avait été chef de troupe. C'est à 11 ans qu'il avait dénoncé son oncle à la police de la pensée, après avoir entendu une conversation qui lui avait semblé tendancieusement criminelle. À 17 ans, il avait été organisateur de district de la Ligue junior antisexe. À 19 ans, il avait conçu une grenade à main qui avait été adoptée par le ministère de la Paix et qui, lors de son premier essai, avait tué 31 prisonniers eurasiens en une seule fois. À 23 ans, il avait péri au combat. Poursuivi par des avions ennemis en survolant l'océan Indien avec d'importantes dépêches, il s'était lesté avec sa mitrailleuse et avait sauté de l'hélicoptère en eau profonde, emportant dépêches et tout le reste. Une fin, disait Big Brother, qu'il était impossible de contempler sans sentiment d'envie. Big Brother a ajouté quelques remarques sur la pureté et la détermination du camarade Ogilvy. Il était totalement abstinent et non fumeur. N'avait pas de loisirs, sauf 1 heure quotidienne dans le gymnase, et avait fait vœu de célibat, croyant que le mariage et le soin consacré à une famille sont incompatibles avec un dévouement de 24 heures par jour. Il n'avait aucun sujet de conversation, sauf les principes de l'Anxoc, et aucun autre objectif dans la vie que la défaite de l'ennemi eurasien, la chasse des espions, des saboteurs, des criminels d'opinion et des traîtres en général. Winston a pesé le pour et le contre pour savoir s'il était opportun de décerner au camarade Ogilvy l'ordre du mérite insigne. En fin de compte, il décida de s'y opposer en raison des référencements croisés inutiles qu'elle entraînerait. Une fois de plus, il jeta un coup d'œil à son rival dans le box d'en face. Quelque chose semblait lui dire avec certitude que Tillotson était occupé par le même projet que lui. Il n'y avait pas moyen de savoir laquelle de ces versions serait finalement adoptée, mais il avait la conviction profonde que ce serait la sienne. Le camarade Ogilvy, inexistant il y a encore 1 heure, est maintenant bien réel. Il fut frappé de réaliser que l'on pouvait créer des hommes morts, mais pas des vivants. Le camarade Ogilvy, qui n'avait jamais existé dans le présent, maintenant existait dans le passé, et quand plus tard la falsification serait oubliée, il existerait tout aussi authentiquement, et sur la base des mêmes preuves, que Charlemagne ou Jules César.